Parlons Psycho, 30 minutes pour aborder des questions d'éducation et de psycho.
Bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui va traiter tout au long de l'année de sujets de psycho, mais également de parentalité. Alors aujourd'hui, en compagnie de mes trois invités, nous allons traiter des différents troubles de l'apprentissage et du développement dont peuvent souffrir certains enfants. Précocité, haut potentiel, hyperactivité, troubles de l'attention et de la concentration, 10 sont des termes de plus en plus fréquemment cités par les parents, les enseignants et les éducateurs. Ces termes désignent des singularités cognitives, comprenez des troubles du comportement, ayant pour conséquence de gêner ou d'altérer les apprentissages de l'enfant et sa vie sociale. Alors comment mieux comprendre ces troubles et comment les aborder? Ces enfants peuvent-ils suivre une scolarité normale tout en s'épanouissant? C'est ce que nous allons tenter de répondre à cette question aujourd'hui avec mes trois invités. Alors tout d'abord, docteur Clotilde Rivière-Injenbach, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neuropédiatre à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche depuis 1999. Et vous êtes passé également par les hospices civils de Lyon. Je voudrais déjà que l'on redéfinisse ces troubles du développement, que l'on comprenne bien d'où viennent ces déséquilibres neurologiques. Est-ce qu'il y a des prédispositions, un terrain familial? Est-ce qu'on peut trouver une origine à simplement une explication biologique à ce type de troubles?
Alors, j'ai bien aimé votre introduction qui plaçait ces troubles donc, dont on va parler, qui sont plus particulièrement les troubles des apprentissages, dans un champ un peu plus vaste, que sont les troubles du neurodéveloppement, comme ceux-ci sont redéfinis actuellement. Et dans le trouble du neurodéveloppement, il y a deux éléments que je trouve intéressants. C'est le terme de développement, c'est-à-dire qu'on parle d'enfants qui ont à faire au cours de leur vie d'enfant des apprentissages, et ces apprentissages s'intègrent complètement dans leur développement. Alors, dans les troubles du neurodéveloppement, il y a différents troubles qui ont été répertoriés. Il y a effectivement les troubles cognitifs, dont on va plus parler. Il y a également les troubles des interactions sociales. On parle de la cognition sociale, et on parle plus quand on parle des troubles du spectre de l'autisme. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ce que vous souhaitiez qu'on aborde, c'était plus les troubles des apprentissages. Et certes, l'apprentissage se fait grâce à un organe qui est le cerveau, qui va subir une maturation au cours du développement de l'enfant. Mais le cerveau, il n'est pas isolé, il s'intègre dans un environnement. Et de ce fait, l'origine des troubles des apprentissages n'est jamais unifactorielle, elle est multifactorielle, avec des composantes génétiques, qu'on dira plus de prédisposition, qu'on retrouve bien après dans les études épidémiologiques qui montrent qu'il y a un plus grand taux de difficultés d'apprentissage au sein des familles, et tout particulièrement lorsqu'il y a des études d'agrégation familiale. C'est comme ça qu'on parle de ces études épidémiologiques spécifiques, où on oppose la fréquence des problématiques dans des fratries ou dans des fratries de jumeaux. Et on retrouve effectivement une prédisposition lorsqu'il y a des antécédents familiaux, que ce soit la dyslexie, que ce soit les troubles des apprentissages, avec une surreprésentation qui est assez importante. Mais il y a aussi d'autres facteurs de susceptibilité, qu'on dira plus environnementaux, qui peuvent être liés aux circonstances dans lesquelles vont survenir la grossesse, des consommations de substances. Ça peut être des médicaments, comme on en a entendu parler récemment. Ça peut être d'autres produits, ou des circonstances de grossesse plus courtes, comme la prématurité, qui peuvent être considérées comme des facteurs de prédisposition. Voilà. Et puis, l'environnement au sens large, sociaux.
L'éducation, donc.
Psychologique, affectif, les conditions auxquelles les enfants peuvent être mis en situation pour leur situation d'apprentissage. Voilà. Il y a plein de facteurs qui viennent interférer et qui pourront avoir un poids différent suivant les enfants.
Et Céline Thévenon, bonjour. Donc, bonjour. Vous êtes neuropsychologue depuis 10 ans.
Oui.
Vous êtes notamment spécialisée en réhabilitation neuropsychologique, et vous proposez également une formation aux habiletés parentales. Alors on va revenir après à ce que vous proposez comme suivi. Je voulais déjà savoir, en fait, vous qui réalisez des bilans, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a un âge à partir duquel le bilan peut être plus fiable?
Alors, concernant notamment la problématique des troubles de l'attention, les bilans diagnostiques commencent à l'âge de 6 ans. Néanmoins, quand il y a des difficultés qui se répercutent et dans les apprentissages et surtout dans le système familial, la question se pose en fait de peut-être déjà rencontrer un neuropsychologue en préalable, pas forcément dans l'idée de réaliser un bilan, mais peut-être déjà d'évoquer certains outils avec un diagnostic un peu plus tardif. De manière générale, au-delà des troubles des apprentissages, des troubles de l'attention, tout ce qui va être troubles des apprentissages, dysphasie, dyslexie, etc., les diagnostics peuvent se poser, en tout cas débutent aussi quand même, des fois un petit peu avant 6 ans, mais généralement, on va dire que l'âge où les résultats peuvent être un peu plus fins, où on est un peu plus sûr de ce qu'on émet comme hypothèse, c'est plutôt dans les alentours quand même de 8 ans. C'est-à-dire que dès que des évaluations diagnostiques sont faites avant l'âge de 6 ans ou à un petit 6 ans, très généralement, on conseille fortement de refaire un point évolutif, notamment parce que aussi on est dans le développement et que les choses peuvent évoluer, peuvent bouger, donc de refaire un point en cours de scolarité primaire.
Bon, mieux vaut tard que jamais, du coup.
Exactement.
Et alors, justement, en termes de thérapie, qu'est-ce que vous préconisez ?
Alors, dans la question des troubles des apprentissages, notamment dans la spécificité des troubles de l'attention, on entend souvent parler de remédiation cognitive. Alors, la question de la remédiation cognitive, aujourd'hui, de manière scientifique, on n'a aucune preuve sur le bien fondé des effets de cette remédiation, qui très souvent est quand même prodiguée par le biais d'exercices qui sont faits sur ordinateur. Aujourd'hui, moi, je me positionne complètement différemment dans le sens où il y a quand même une prise en compte de l'activité quand même qui est très souvent libérale, hein, quand il s'agit de questions de remédiation avec des honoraires qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale. Donc, généralement... Moi, je pars du principe que de travailler avec l'enfant seul en remédiation, imaginons face à un ordinateur où on lui donne des stratégies, des choses, des outils en fait pour améliorer ses capacités attentionnelles, je vois peu de chances que ça se généralise dans le quotidien. Aujourd'hui, je me suis spécialisée effectivement dans l'accompagnement plutôt à la parentalité. Donc suite au bilan, je pense que c'est beaucoup plus efficace de donner des pistes, des outils déjà de compréhension à la famille et à l'enfant. Et même aussi à l'école pour pallier au mieux dans le quotidien ou en tout cas rendre la vie plus facile quand on a des troubles de l'attention en passant d'abord par l'acceptation.
D'accord. Alors justement, pour ce qui est de ce qui se passe, hein, le quotidien de l'enfant à l'école, nous avons donc Juliette, ici présente parmi nous, qui est maman de 3 enfants, de 18 ans, 16 ans et 14 ans. Et chacun de ces enfants donc souffre actuellement de l'un de ces troubles d'apprentissage. Alors Juliette, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous repréciser quels sont donc ces troubles dont souffrent vos enfants ? Et puis, eh bien, je vous pose naturellement la question, est-ce que... selon vous, le corps enseignant soutient est-ce que le corps enseignant aujourd'hui est compréhensible par rapport à ces différents troubles ? Vous sentez que les choses ont avancé de ce côté-là ?
Donc, j'ai 3 enfants dont chacun souffre d'une dyspraxie. Donc ça, c'est l'élément commun. 2 d'entre eux ont un trouble de l'attention associé. Et les 3 aussi ont un potentiel.
On va peut-être juste redéfinir ce que c'est que la dyspraxie avec vos mots à vous, si vous voulez.
Alors avec mes mots à moi qui sont...
Des mots de maman.
Qui sont de maman et aussi de professionnel. Donc on dit que la dyspraxie, c'est une non-automatisation, une non-coordination et une non-planification du geste. Donc la dyspraxie, de manière très générale, ça peut vous faire penser à un monsieur Hulot, par exemple, qui... c'est monsieur Hulot ? Oui, c'est ça. Qui est maladroit, ou Gaston Lagaffe, voilà, qui...
Les gestes n'ont pas forcément bien coordonnés.
Absolument, oui.
Et 3 à 6% des enfants souffrent actuellement de cette dyspraxie.
Oui, alors à plus ou moins grand degré, voilà. Il en existe plusieurs.
Comme chacun des troubles hein, qu'on a cités.
Voilà, et il existe aussi différentes intensités. Donc mes 3 enfants sont tous différents, déjà, sur leur pathologie. Et leur pathologie s'exprime aussi de manière extrêmement différente.
Et alors, est-ce qu'au niveau justement des enseignants sur leur parcours scolaire, Est-ce que vous vous êtes sentie épaulée, comprise? Est-ce que eux se sont sentis pris en compte sans être au contraire stigmatisés?
Les enseignants et nous avons pu faire équipe à partir du moment où nous comprenions les difficultés de l'enfant. À partir du moment où on disait non, finalement, c'est pas parce que il ne veut pas qu'il ne fait pas, mais à partir du moment où on a tous compris que c'est parce qu'il ne pouvait pas qu'il ne faisait pas, à ce moment-là, on a pu avancer ensemble.
Ce qui fait toute la différence.
C'est ce qui est, voilà.
Et alors, en tant que maman, quels sont les signes qui vous ont alerté, qui vous ont inquiété? Alors peut-être déjà à partir de votre premier enfant, vous vous êtes dit, tiens, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas.
Donc effectivement, c'est à partir de notre premier enfant qu'on a eu la puce à l'oreille. Et la puce à l'oreille nous a été mise par ma sœur, qui est enseignante, et qui, en regardant mon aîné de 3 ans commencer à courir, m'a dit, là, je pense qu'il y a comme une difficulté sur la coordination. Voilà, parce que avec une dyspraxie, comme il y a un manque de planification, de coordination du mouvement, la course peut être compliquée. Et effectivement, on a commencé à aller rencontrer un neuropédiatre qui nous a orientés d'abord vers un psychomotricien, et puis les choses sont allées aussi vers un neuropsychologue. Et ensuite, on a pu mettre en place des rééducations.
Multiples. D'accord.
Voilà. Ouais.
Et Céline Thévenot, donc vous qui êtes spécialisée dans tout ce qui est enfant précoce, qu'on appelle également HPI, au potentiel intellectuel, comment vous définiriez justement ce trouble? Qu'est-ce que vous conseilleriez aux enfants et aux parents qui en souffrent?
De la question du haut potentiel?
Oui.
Alors moi, je le définis pas comme un trouble. Pour le coup, on revient sur la question du trouble qui est, on va dire, les répercussions dans le quotidien. C'est-à-dire qu'à même état de trouble de l'attention, de dyspraxie, la répercussion dans le quotidien sera pas forcément la même selon l'enfant qui souffre de cette différence-là. La question du haut potentiel, au-delà de parler d'un trouble, c'est un fonctionnement, on va dire, qui est spécifique, qui nécessite d'être reconnu dans ses particularités, que ce soit au niveau communicationnel, au niveau de comment on peut aider l'enfant à s'insérer, on va dire, dans un système où tout le monde ne fonctionne pas pareil, mais je le définirais pas comme un trouble.
D'accord. Pour ce qui est, alors par contre, des troubles de l'apprentissage, enfin de l'attention, pardon, et de la concentration, est-ce que vous donnez un traitement médicamenteux? Est-ce qu'il y a peut-être des aménagements, j'imagine, après à prévoir avec les enseignants?
Alors, j'ai bien aimé ce que Céline Thévenot disait tout à l'heure. Enfin, je pense que donc il y a des réalités qui nécessitent d'être reconnues, qui sont la présence de ces troubles neurodéveloppementaux, en l'occurrence au niveau des apprentissages, qui sont déjà une première démarche, comme l'a bien dit madame, et qui permettent de mieux comprendre les particularités de l'enfant. Et du coup, d'avoir une meilleure compréhension pour ceux qui vivent avec eux, que ce soit les enseignants, les parents, et qui vont être chargés de leur apporter les meilleures conditions d'apprentissage. Et c'est vrai que pour s'adapter à un enfant, faut comprendre déjà comment il fonctionne, et c'est comme ça que la pédagogie peut être adaptée.
Donc mettre des mots déjà sur
comprendre la cause de ses erreurs. Oui, alors déjà d'abord comprendre pourquoi il fait pas comme les autres, et du coup pouvoir lui permettre d'apprendre de ses propres erreurs, et que l'enseignant ou le parent apprenne des erreurs de l'enfant, et puis après prendre en compte comment il le vit effectivement, parce que ça peut être source de souffrance quand l'enfant a l'impression qu'il fait des efforts et qu'il n'y arrive jamais. Après, une fois que le diagnostic est posé, il y a différents outils qui sont à notre disposition, qui sont d'une part les adaptations, qui peuvent être effectivement permettre à l'enfant de s'appuyer sur ses points forts pour compenser des difficultés, entre autres chez les enfants qui ont des difficultés praxiques, dyspraxiques, ou ce qu'on appelle maintenant les troubles d'acquisition des coordinations. Les enfants sont souvent plus à l'aise au niveau verbal, donc comment ils peuvent s'aider de leur propre verbalisation des tâches pour mieux anticiper comment ils vont s'y prendre, puisque comme disait très bien madame, la planification du geste est compliquée. Donc voilà, comprendre pour mieux adapter, pour l'enfant, pour ceux qui sont autour. Parfois développer des rééducations pour compenser ou développer d'autres stratégies qui seront plus pertinentes. Et puis, lorsque tout ceci suffit pas et qu'on a un trouble de l'attention qui est le seul accessible à une possible thérapeutique médicamenteuse, pourquoi pas avoir recours à un traitement médicamenteux. Mais en aucun cas, c'est une panacée, en aucun cas, c'est une fin en soi, c'est un outil supplémentaire. Moi, je dis souvent aux parents, c'est une carte qu'on peut jouer en plus, quand les autres cartes ne suffisent pas, ou qu'il y a un cap à passer, ou qu'on s'est donné un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, ou qu'il y a une souffrance de l'enfant qu'on n'arrive pas à atténuer, voilà. Et c'est des médicaments. C'est un médicament principalement qui se décline sous différentes formes, qui est bien connu, qui est très bien encadré par l'Agence française du médicament, qui peut avoir des effets secondaires comme n'importe quel médicament, mais pour lequel on pèse toujours le pour, le contre, et qu'on accompagne, c'est-à-dire qu'en suivant l'enfant, les parents, en évaluant ce qu'il lui apporte et en essayant de l'arrêter dès qu'on pense que c'est intéressant de l'arrêter.
J'imagine qu'il y a un dosage et qu'on peut le prendre sur une durée limitée. On ne parle pas de médicaments à vie.
Alors, moi, en médecine, je ne parle quasiment jamais de médicaments à vie, en tout cas pas en neuropédiatrie. Donc non, et encore moins avec le méthylphénidate, qui est un médicament qui n'a une visée que symptomatique, c'est-à-dire qu'il est efficace le temps où on l'a dans le sang, et quand on l'a plus, il n'est plus efficace. Donc il a vraiment des objectifs précis qu'on redéfinit avec l'enfant lorsqu'il est assez mature pour pouvoir y participer, ce qui peut venir assez tôt, qu'on redéfinit avec les parents. Et puis, on se re-questionne toujours, est-ce que c'est toujours bien fondé ou pas? Ou est-ce que la tolérance de l'enfant est suffisante pour justifier qu'on le continue? Mais c'est jamais à vie, c'est sur un temps. Un an, deux ans, trois ans, parfois on arrête, parfois les enfants reviennent au bout de 3-4 ans pour dire, j'en ai un nouveau besoin, je m'en rends compte. Voilà, ça se fait dans le dialogue, quoi.
Et sur le plan du comportement, alors Céline, du coup, qu'est-ce que vous pouvez proposer ?
Alors, on travaille beaucoup avec les enseignants, déjà dans la compréhension finalement des difficultés de l'enfant et en proposant des adaptations sans trop leur donner trop d'outils qui pourraient être difficilement mis en place dans un système classe. Il faut aussi se mettre à la place.
Progressivement.
Voilà. Il faut aussi se mettre à la place des enseignants qui gèrent des classes parfois de 30 élèves. Mais des petites adaptations et notamment aussi un regard bienveillant sur effectivement le fait que quand l'enfant abandonne peut-être l'activité ou n'y arrive pas, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Il y a quelque chose en tout cas qui freine. Et donc, comment adapter l'apprentissage tout simplement par des choses des fois très basiques hein, qui vont être le placement dans la classe. Forcément, penser ne pas le mettre au fond de la classe, ne pas le mettre à côté d'une fenêtre qui pourrait, à un moment de décrochage attentionnel,
le distraire,
regarder le petit papillon qui passe par la fenêtre, pas le mettre à côté d'un camarade qui est aussi agité, etc. Tout en sachant aussi que dans les troubles de l'attention, il y a certains enfants qui passent un petit peu inaperçus, parce que justement, vous parliez de troubles du comportement, ce n'est pas tous les enfants qui ont des troubles de l'attention qui ont des problématiques dites de comportement. Et qu'est-ce qu'on met derrière le comportement? Un enfant qui fait des bruitages en classe parce qu'il a une agitation motrice qui est liée à son trouble de l'attention, il ne s'en rend pas compte. Donc du coup, dans les premières adaptations, ça va être de ne pas signifier toutes les deux minutes que l'enfant en fait sort du cadre, alors que lui-même en fait n'a pas conscience qu'il gigote, qu'il tripote sa gomme, qu'il fait des bruitages, etc.
Donc l'enfant peut être soit en position de vraiment se mettre complètement en réserve, en repli, et puis des troubles qui font que l'enfant au contraire va être dans ce qu'on appelle l'hyperactivité ou l'impulsivité, qui se caractérise par une agitation motrice involontaire et incessante. Et puis il y a également l'impulsivité qui elle se manifeste par une réflexion insuffisante avant de répondre, une incapacité à inhiber une réponse adaptée à la situation. Donc je crois, Juliette, que l'un de vos enfants souffre de cette impulsivité, vous m'aviez dit. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que sur le plan des relations à l'autre, donc là on va parler plus de la vie affective, ça nous fait une transition justement, en quoi ça le gêne? Est-ce que votre enfant arrive à avoir une vie affective malgré tout, des amis?
Effectivement, c'est l'impulsivité, c'est assez handicapant parce que on agit avant de penser. Donc par rapport à la sphère sociale, on peut être surpris de la réaction de la personne, de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte qui souffre d'impulsivité, parce que d'abord l'action et après la réflexion. Pour revenir à votre question qui est, est-ce qu'il a des amis ? Oui, il en a. Il en a peu. Encore une fois, on se tourne vers la compréhension. Si l'autre en face dépasse, voilà, cette réaction et accueille la différence, à ce moment-là, l'amitié se met en place. Effectivement, si on se crispe en se disant mais pourquoi il réagit comme ça et qu'on reste figé sur la réaction, à ce moment-là, l'échange avec l'autre devient difficile.
Ça suppose vraiment d'apprendre à connaître cet enfant jusqu'au bout, je dirais, pour mieux comprendre ses réactions.
Oui, ça suppose pour chacun d'entre nous à vraiment s'interroger en se disant mais est-ce qu'il réagit contre moi ou il réagit pour une autre raison, voilà. Et à son tour, et essayer de ne pas être dans la réaction et d'être dans l'écoute. Mais encore une fois, ce sont des paroles, hein. Au tous les jours, c'est difficile, hein. Et je me souviens de mon aîné qui avait dit à son grand-père quand il était petit, tu sais, grand-père, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de me parler. Ouais, parce que donc mon aîné avait été en réaction et mon papa avait été aussi en réaction. Ouais. Donc
cette difficulté à canaliser un peu cette émotion.
Exactement. Donc voilà, pour dire aussi que les personnes souffrant d'impulsivité ont conscience de voilà que ça va déborder et que après ça ira, mais c'est pour ça qu'il avait déjà, à ses 7 ans, dit ça à son grand-père.
Il avait compris. Donc, vous avez 3 enfants hein, qui souffrent de cet handicap au quotidien et dans leurs apprentissages. Docteur Rivière-Eisenbach, vous nous confirmez que ce sont souvent des troubles que l'on rencontre dans des fratries. Il peut y avoir plusieurs membres d'une fratrie.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure au sujet des prédispositions familiales. C'est-à-dire qu'il y a très certainement...
J'ai vu, vous parliez tout à l'heure,
voilà,
entre autres.
Des facteurs favorisants au niveau génétique. Et c'est vrai que moi qui fais, entre autres, des consultations pour les troubles d'apprentissage, je commence souvent par demander aux parents si eux-mêmes ont souvenir d'avoir eu eux-mêmes des difficultés d'apprentissage ou dans leur famille, un cousin, une nièce, une sœur. Et c'est assez intéressant, je trouve, du point de vue psychologique, parce que l'enfant se rend compte que son papa, il travaille, sa maman, elle travaille, ils ont réussi leur vie, ils sont parents. Et même si eux, c'est compliqué, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils ont l'impression des fois qu'ils n'y arriveront jamais, parce que des fois, les propos des adultes vis-à-vis des enfants dépassent leurs pensées, je pense. Mais les marques, c'est intéressant de dire à l'enfant, mais tu sais, moi aussi, quand j'ai appris à lire ou quand j'ai appris à écrire, ça a été difficile pour moi. Et puis, on se rend compte aussi de la trace que ça peut laisser aussi chez un parent d'avoir soi-même, en tant qu'enfant, vécu cette difficulté d'apprentissage. Et ça motive pour essayer de l'identifier, d'apporter à l'enfant une explication sur ce qu'il est en train de vivre et de le remettre à sa juste place, quoi. Voilà. Donc oui, il y a dans les fratries une récurrence. C'est pas systématique du tout, hein.
Mais c'est courant.
Voilà. Mais c'est fréquent, ouais.
Et alors Juliette, donc en ayant 3 enfants qui ont ce type de troubles, comment vous gérez cela en tant que maman? Est-ce que vous avez dû mettre entre parenthèses votre vie professionnelle? Je crois que vous êtes aussi pas mal investie dans tout ce qui est associatif.
Alors effectivement, j'ai mis entre parenthèses ma vie professionnelle parce que 3 enfants avec différents troubles qui nécessitent des rééducations, j'ai eu la chance de pouvoir arrêter de travailler. Et de pouvoir amener mes enfants aux différentes rééducations qui étaient nécessaires pour eux. Je me suis également effectivement très investie dans les associations parce que en tant que parent, pour accompagner, on a besoin d'être accompagné et c'est au sein des associations qu'on trouve cet accompagnement et ce soutien. Ouais. Donc il existe différentes associations qui traitent des différents troubles 10. Et j'invite tout le monde à se tourner, et en particulier les parents, à se tourner vers ces associations pour être soutenus. Et pour rappel, si je peux me permettre, voilà, le 13 octobre prochain, il y a la Journée nationale des 10 qui a lieu dans toutes les régions. Et dans le Rhône, elle aura lieu à l'hôtel de région à Confluence. Voilà, de 9h à 17h. Et c'est une entrée gratuite avec énormément de stands, énormément de conférences. Des témoignages autour et sur les 10. Donc, n'hésitez pas à y aller.
C'est noté. Et alors, comment vont vos enfants aujourd'hui?
Mes enfants...
Il y en a un qui a 18 ans, donc...
À 18 ans, qui...
Il en est où ?
Il en est où ? Il a eu son bac cette année. Voilà, ils sont tous dans des scolarités ordinaires, avec des adaptations. L'adaptation la plus importante, c'est l'ordinateur, pour eux. Et puis, ils vont aussi bien que possible avec leur singularité. Hmm.
Céline, du coup, vous suivez des enfants jusqu'à l'âge adulte ?
Je peux les suivre à l'âge adulte. Effectivement, comme disait le docteur Olivier Riggenbach, très souvent, quand on rencontre les familles qui viennent consulter pour des difficultés concernant leur enfant, on se rend compte, et eux-mêmes se rendent compte, qu'eux-mêmes ont vécu les mêmes choses en étant plus jeunes, ce qui aussi... peut des fois interférer dans la communication avec son propre enfant. On parlait d'impulsivité même du coup d'ordre émotionnel, ou un enfant avec des troubles attentionnels. Et les enfants, on retrouve beaucoup la même chose aussi chez les enfants à haut potentiel, qui sont très très vite dans le débordement émotionnel, quelque chose qui vient de manière assez brutale. Et puis la réponse du parent qui fonctionne de manière un petit peu similaire, qui va finalement faire un effet un petit peu boule de neige. Donc quand on discute avec les parents, c'est pas rare finalement que les parents plus tardivement viennent aussi demander de réaliser un bilan pour eux. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, il est jamais trop tard et c'est pas rare de consulter aussi des adultes dans ce cadre-là.
D'accord. Et donc dernière question que je vais vous poser à chacune d'entre vous. Donc selon vous, peut-on guérir ou du moins se libérer avec le temps et les suivis mis en place de ces souffrances? En quelques mots, si vous pouvez nous répondre chacune. Docteur Rivière Jeanne-Lac.
Alors, guérir, à partir du moment où c'est un trouble développemental, on se construit avec, mais on apprend à vivre avec. Voilà, donc je pense que le terme de guérir, je ne l'utiliserai pas. Après, on n'est pas que une partie cognitive du cerveau, on est aussi tout un tas d'autres choses. Donc, suivant l'individu, sa personnalité, son histoire de vie, la souffrance sera plus ou moins importante. Et puis nous, on ne le maîtrise pas. Notre rôle, c'est de faire en sorte qu'elle le soit le moins possible. Et puis vivre avec lui, bien sûr, puisqu'on rencontre plein d'adultes, finalement, en consultation, qui viennent avec leurs enfants et qui ont fait leur vie. Voilà. Après, est-ce que c'est facile? Je me permettrai surtout pas de le dire. Je pense que c'est un vrai parcours du combattant. Mais je pense qu'avec une meilleure compréhension, on progresse.
Céline Thévenon?
Effectivement, on ne répare pas une difficulté cognitive. On apprend à vivre avec, à l'accepter. Donc, la question de s'en libérer, en tout cas, passe aussi par une compréhension environnementale. Et en tout cas, l'idée, c'est que l'enfant se connaisse dès le plus jeune âge sur comment il fonctionne pour justement pouvoir mettre en place des adaptations aidées par les professionnels et par la famille. Et par l'école, pour lui donner en fait la force aussi de continuer à se battre. Et parfois, ça fait des adultes, au contraire, qui ont appris à se battre dans leur vie et qui arrivent à faire de très très belles choses, justement parce qu'ils ont cette force de caractère-là.
Juliette, qu'en pensez-vous ? C'est le mot de la fin.
Je rejoindrai ce qui vient de se dire. C'est difficile de parler à la place de mes enfants. Voilà. Donc. Je dirais que le grand travail que l'on mène aujourd'hui, c'est de rassembler ces deux mots, ordinaire et extra. Voilà, pour qu'ils puissent se dire extraordinaire.
C'était le mot de la fin. Bien, merci à toutes les trois pour votre éclairage sur tous ces troubles qui ne sont pas une fatalité, on l'a compris, mais avec lesquels on peut grandir et se développer. Et je vous souhaite à toutes les trois une très bonne année scolaire, à vous qui travaillez aux côtés de nombreux enfants adolescents, et puis à vous, Juliette, ainsi qu'à vos trois enfants.
Merci.
À vous, à bientôt. Merci. Galade.